Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. Le gouvernement congolais appelé à prendre ses responsabilités. Il doit assister les déplacés qui fuient les affrontements entre l'armée et le M23 à Kanyabayonga au Nord Kivu. En effet, l'annonce du CICR de suspendre son aide, les déplacés meurent de faim, manquent de l'eau potable et n'ont pas accès aux soins médicaux, alerte le président des déplacés de guerre de Kanyabayonga. Kinshasa, jadis la belle, est devenue une grande poubelle. Tenez, à la cité comme au centre-ville, des poubelles qui débordent, des déchets surtout plastiques très visibles partout. Des voix s'élèvent pour dénoncer cela. Nous faisons le point dans ce journal en marge de la Journée mondiale de l'environnement. Et puis, l'invité de ce midi, Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR au Nord Kivu. Elle nous parle de l'activité du CICR dans la zone entre Kirumba et Kanyabayonga, 6 jours après la suspension de la distribution de l'aide alimentaire par cette organisation. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Le président du site des déplacés de guerre de Kanyabayonga, commune rurale du territoire de Lubero, plaide pour une assistance aux déplacés qui ont fui récemment les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la région. Il appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités après l'annonce du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, de suspendre son assistance aux déplacés pour une durée de 10 jours. Richard Kaloumé ajoute que plus de 30 000 nouveaux ménages ont fui ces derniers jours l'avancée des rebelles du M23 vers Kanyabayonga, où ils vivent actuellement sans assistance. Richard Kaloumé, président du site des déplacés de guerre de la commune rurale de Kanyabayonga, est joint par André Kitenge.
Il faut signaler que même ceux qui venaient de recevoir leur assistance, de vivre de la part du CICR, se sont vus aussi obligés de fuir à nouveau. Ils ont tout abandonné dans leur maisonnette et aujourd'hui ils sont éparpillés dans les différents villages du sud du territoire de Lubero. C'est pourquoi nous sommes vraiment en train d'appeler notre gouvernement. Nous insistons que le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous appelons également les organisations humanitaires de se focaliser à cette question, de se positionner dans la partie sud du territoire de Lubero qui a accueilli beaucoup de déplacés. Malheureusement, jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, aucune organisation humanitaire n'est arrivée dans la zone, même pour une simple salutation. Jusqu'à présent, il n'y a aucune initiative de la part du gouvernement pour soulager tant soit peu ces déplacés qui sont en train de mourir de la faim. Pourquoi les déplacés meurent de faim? Les déplacés n'ont pas accès aux soins médicaux. Les déplacés n'ont pas à manger. Les déplacés n'ont pas accès à l'eau potable.
Par ailleurs, le CICR indique que ses équipes dans la zone entre Kirumba et Kanyabayonga étudient toutes les options pour voir comment ces déplacés pourront être assistés. Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR au Nord Kivu, déplore les conditions difficiles que traversent ces déplacés. Elle indique que la décision de suspendre la distribution de l'aide était une décision difficile. Elle l'a dit à Rosalie Zawadi.
Nous, le CICR, nous avons été forcés d'interrompre notre distribution puisque ces gens sont en mouvement. Cependant, nos équipes sont toujours sur place entre Kirumba et Kanyabayonga et nous soutenons notamment les centres de santé de la zone pour qu'ils puissent répondre d'une meilleure manière aux besoins des blessés pour les stabiliser et éventuellement même les évacuer. Pour l'instant, on essaie de comprendre si les gens vont revenir vers là où ils étaient et là où on devait les assister et les aider, ou s'ils vont élire quelque part domicile de manière plus prolongée dans les nouveaux endroits au sud Lubero.
Nord Kivu toujours, une trentaine de maisons parties en fumée ces 2 derniers jours dans des incendies successifs des maisons d'habitation à Sake, c'est respectivement à Kimoka et au quartier Mayutsa dans le territoire de Masisi. La société civile du groupement de Kamuranza déplore ces incidents qui arrivent alors que les propriétaires se trouvent pour la plupart dans des sites des déplacés à Goma. Ces incendies successifs s'ajoutent à une liste de pillages et de destruction des domiciles de ces familles déplacées, ajoute le président de cette structure. Léopold Paul Mouicha plaide pour une action des autorités. Il est joint par Bernard Denyangi.
La situation qui prévaut à Sac aujourd'hui, c'est vraiment révoltante du fait qu'une cité qui est totalement occupée par les forces armées et les VDP, des maisons soient incendiées en pleine journée sans que les autorités ne puissent donner les vraies informations sur les auteurs. Comme vous le savez, notre population, depuis février, s'était déplacée vers Mugunga, d'autres dans la ville de Goma. Nous avions décrié le fait que des maisons avaient été pillées, des portes emportées, d'autres sont en train d'être détruites et des matériels sont en train d'être vendus à Goma. Et aujourd'hui, voilà, les maisons sont en train d'être incendiées. Seulement du 2 au 5, nous sommes à peu près 50 maisons incendiées, malheureusement sans aucune enquête. Donc nous lançons vraiment un SOS aux autorités de se pencher dans l'urgence à cette question pour que le pire n'arrive. Parce que au niveau des camps de déplacés, la population est vraiment en colère. Il y a des femmes tombées la nuit, l'une continue à poursuivre les soins.
Contacté, le chef du groupement de Camourons a dit qu'un rapport a déjà été adressé aux autorités provinciales sur cette situation. Par ailleurs, situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Ituri et de la Tchopo. Des caucus des élus des deux provinces sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale dans la pacification urgente de cette partie du pays. Au cours d'une audience leur accordée hier par le président Vital Kamerhe, les députés de l'Ituri se disent vivement préoccupés par l'activisme de la milice Codeco qui occasionne des kidnappings, des braquages, des tueries et une forte crise humanitaire dans plusieurs territoires de la province. Les élus de la Tchopo, quant à eux, se disent préoccupés par le conflit meurtrier entre la communauté Mbole et Lengola qui se disputent les terres de Lubunga à l'autre rive de la ville de Kisangani. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
À en croire le caucus des députés de la Tchopo, le conflit entre la communauté Mbole et Lengola est à la base non seulement de plusieurs tueries, mais aussi des déplacés massifs de la population de Lubunga vers Kisangani. Le conflit prend l'ampleur et a atteint les territoires de Bundu, Opala et Isangi, affirment les élus.
Tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficile et inhumaine.
Du côté de l'Ituri, les territoires de Mahagi, Aru, Djougou et Irumu vivent une hécatombe sécuritaire qui plonge la population dans un total désarroi, affirme à Vital Kamerhe les élus de cette province. Daniel Ouyewa.
Le président nous a rassuré qu'il va s'impliquer lui-même pour plaider la cause de l'Ituri et nous allons voir qu'avec son implication, l'Ituri peut bel et bien recouvrir la paix.
Répondant à leur sollicitation, le président de l'Assemblée nationale rassure de son implication dans la recherche de la paix en Ituri et dans la Tchopo. Vital Kamerhe annonce par ailleurs une mission humanitaire des députés pour assister les victimes et s'enquérir de la situation de terrain avant d'en débattre à l'hémicycle.
Parlant de Vital Kamerhe, notez la clôture hier, tard dans la nuit à Kinshasa, des concertations qu'il a initiées en vue de l'investiture du gouvernement souminois. Le président de l'Assemblée nationale se félicite d'avoir balisé le chemin avec une majorité parlementaire consolidée. Après avoir échangé pendant 2 jours avec des délégations de tous les partis et regroupements ayant plus de 10 députés nationaux, Vital Kamerhe affirme que son bureau a obtenu le quitus de la majorité parlementaire pour l'investiture du gouvernement souminois. S'adressant à la presse, le président de la Chambre basse du Parlement souligne que les députés ont privilégié l'intérêt du peuple, même si leurs revendications ne sont pas rencontrées. Il s'engage tout de même à analyser de près le programme du gouvernement pour booster le développement de la RDC. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au micro de Michel Kifindangoy.
Mais je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Les députés ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi être des hommes d'État qui sont capables de se sauver patriotiques, d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général. De notre peuple, je ne reviendrai pas sur la question à tout moment, qui souffre non seulement par la guerre vous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population.
Entre-temps, le Sénat procède ce jeudi à la validation des pouvoirs de tous les sénateurs nouvellement élus, parmi lesquels l'ancien locataire de Makala, Salomon Idi Kalonda. De retour à Kinshasa après un bref séjour en Belgique pour des soins médicaux, Salomon Idi Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi, s'est montré très critique contre tout éventuel projet de révision ou de changement de la Constitution. Au sortir de son identification hier comme sénateur élu de Lubumbashi, ce haut cadre de Ensemble pour la République dit placer son mandat sous le signe de l'unité nationale, la paix et la réconciliation pour la défense des intérêts de la population. Célébration le 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement, une occasion de sensibiliser aux efforts de protection et de restauration de la terre. À Kinshasa, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la saleté dans laquelle la ville se trouve. À la cité comme au centre-ville, c'est pareil. Des poubelles débordent là où il y en a. D'autres, sauvages, sont créés un peu partout. Des déchets, surtout plastiques, sont très visibles. C'est un reportage signé John Chibwabwa.
Kinshasa, jadis Kinlabel, est devenue une grande poubelle. Dans une mégapole de plus de 12 millions d'habitants, c'est uniquement au centre-ville qu'on trouve des poubelles publiques. Conséquence, les avenues, les rivières et les caniveaux sont devenus des poubelles où sont jetées des bouteilles en plastique et d'autres déchets. En cas de forte pluie, des routes, des quartiers entiers sont inondés. L'eau privée des voies d'évacuation se débrouille comme elle peut, charriant au passage ses bouteilles. À cette occasion, la régie des eaux ferme ses points de captage. C'est pour éviter que les bouteilles et autres déchets n'endommagent ses conduites d'eau. La situation a commencé à se compliquer depuis 2015, lorsque l'hôtel de ville a repris la gestion des déchets. Pendant 10 ans, soit de 2005 à 2015, ce secteur est géré par le programme POC, puis PARO, financé par l'Union européenne. Malgré le programme Kinbopeto lancé il y a 5 ans par l'autorité de la ville, Kinshasa est loin de retrouver sa belle robe. De Kimbuta à Ngobila, tous se sont plaints d'un manque criant de moyens financiers pour organiser la gestion des déchets de la ville. Des partenariats ont été signés, dont les derniers avec la société turque Albarak, pour aider à assainir la ville. Les autorités de Kinshasa, en tout cas, y placent beaucoup d'espoir.
Vous avez corrigé avec moi, le reportage est rendu par Blaise Shindani Kambala. Par ailleurs, la situation de la pollution de l'environnement dans la ville de Kinshasa est alarmante et il faut penser à des mesures urgentes pour la sauver des déchets. C'est ce que pense la professeure Céline Sikoulissimoa du département de chimie à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Elle l'a dit dans un entretien avec la presse lundi 3 juin à Kinshasa en marge de la Journée mondiale de l'environnement. Selon cette chimiste spécialiste de la qualité de l'eau, de l'air et de l'environnement, la non-application de la réglementation en matière de pollution de l'eau et de l'air, l'importation des déchets constitue un goulot d'étranglement de la ville de Kinshasa. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Ilali Koko.
Comme vous le savez, hein, la situation de la ville de Kinshasa, elle est alarmante. À travers tout ce que nous voyons comme déchets, ça c'est du visible, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que vous n'avez aucune idée de ce que nous pouvons identifier en termes de particularité sur le plan de la pollution. Si on considère uniquement les embouteillages qui se créent au jour le jour, est-ce que nous avons une idée de la quantité de pollution générée à travers tous ces tuyaux d'échappement? Il n'y a pas de métrologie à ces sujets. Vous venez de parler des matières plastiques. C'est encore une fois juste ce que nous voyons. Mais tout ce qui n'est pas visible, nos études ont révélé que les cours d'eau sont en train d'être pollués et à un niveau alarmant. Il faut que l'on fasse quelque chose. Savoir ce qu'il y a dans cette pollution olfactive que les populations vivent au jour le jour. Tous les jours que les gens incinèrent des déchets de manière sauvage sans se soucier des conséquences parce que il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'application de loi quant à ce. Vous savez que le pays est doté de la loi sur l'eau depuis 2015, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Où sont les mesures d'application?
Dans la foulée, la professeure Sikoulissimoa a annoncé la publication dans les tout prochains jours par le département de chimie de l'UNIKIN d'une étude sur la métrologie de la pollution de l'air, de l'eau et de l'environnement de la ville de Kinshasa et son impact sur la vie des Kinois. Désormais, tous les terminaux de paiement électronique TPE utilisés dans les commerces devront être paramétrés en francs congolais et ce, à dater du 31 juillet. C'est une décision de la Banque centrale du Congo, BCC, contenue dans une lettre adressée aux responsables des établissements de crédit et sociétés financières. Cela rentre dans un programme global de dédollarisation de l'économie congolaise en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais, mesures issues d'une réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de juillet 2023. Explication Cynthia Bachizi.
Nous sommes dans un commerce de la place. Ici, aucun terminal de paiement électronique TPE en francs congolais. Et selon la Banque centrale, seulement 13% de ces terminaux en service sur l'ensemble de la RDC sont configurés pour accepter la monnaie nationale, ce qui est de nature à renforcer l'usage des devises étrangères. L'autorité monétaire veut ainsi inciter la population à utiliser davantage les francs congolais dans les commerces lors des paiements avec les TPE. Pour l'heure, l'Association congolaise des banquiers regroupe toutes les banques commerciales en RDC n'a pas encore réagi. Des sources au sein de certaines entreprises nous apprenons que le management intime déjà l'ordre pour que toutes les dispositions soient prises afin de paramétrer au plus vite ces terminaux de paiement électronique en monnaie nationale. Selon l'esprit de la lettre de la Banque centrale, cette décision ne concerne pas les distributeurs des billets appelés communément DAB ou ATM et la Banque centrale tient également à préciser que cette mesure n'exclut nullement la détention et l'utilisation des cartes de paiement en devises étrangères.
Actualité internationale.
Nous sommes en Madagascar. Une semaine après les élections législatives du 29 mai, la commission électorale ne s'est prononcée ni sur les résultats provisoires, ni sur la sincérité du scrutin qui est mise en cause. Ces dernières heures, chaque parti affinait encore sa stratégie du côté des observateurs indépendants, de l'opposition et de coalition de la majorité présidentielle. Tous sont unanimes pour dénoncer des irrégularités le jour du vote dans plusieurs districts de l'île. En réponse aux fraudes dont ils s'accusent mutuellement, des candidats des deux partis ont l'intention de saisir la justice.
L'invité.
Les équipes du CICR restent dans la zone entre Kirumba et Kanyabayonga au nord Kivu, cela 6 jours après la suspension de la distribution de l'aide alimentaire par cette organisation internationale, une suspension due au rapprochement des combats de la zone de Kanyabayonga, combats qui ont amené les déplacés présents dans cette cité à se déplacer à nouveau. Pour en parler, nous recevons Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR au nord Kivu. Elle est avec Rosalie Zawadi.
Myriam Favier, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 30 mai, le CICR a suspendu la distribution de l'aide alimentaire aux déplacés de Bwito qui s'est trouvé à Kanyabayonga. 6 jours après, où est-ce que vous en êtes?
Vous savez, depuis janvier, il y a des déplacés dans la zone de Kanyabayonga qui viennent des territoires de Rutshuru, de Masisi notamment, et qui étaient partis pour fuir les combats qui avaient lieu autour de ces zones-là et dans ces zones-là. Maintenant, c'est vrai que le CICR tentait d'aider une partie des 165 000 personnes qui étaient déplacées autour de Kanyabayonga et Bulindi notamment. Le CICR devait aider 58 000 personnes lors de cette distribution de vivres, donc de nourriture, et nous avons pu couvrir 29 000 personnes. Donc les personnes se sont déplacées à cause des affrontements qui se rapprochaient de Kanyabayonga. 6 jours plus tard, ces personnes sont toujours déplacées et nous, le CICR, nous avons été forcés d'interrompre notre distribution puisque ces gens sont en mouvement. Cependant, nos équipes sont toujours sur place entre Kirumba et Kanyabayonga et nous soutenons notamment les centres de santé de la zone pour qu'ils puissent répondre d'une meilleure manière aux besoins des blessés, pour les stabiliser et éventuellement même les évacuer.
Selon vos équipes dans la zone, dans quelle situation se trouvent aujourd'hui ces déplacés qui ont été obligés de se déplacer encore une nouvelle fois?
Je pense qu'il faut juste imaginer que se déplacer une fois, c'est déjà extrêmement compliqué. Donc en général, vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Vous partez avec un minimum de choses, pas d'argent, pas de vêtements, pas de nourriture, seulement votre famille, vos enfants que vous prenez avec vous à la hâte, direction une zone que vous ne connaissez pas souvent ou vous ne connaissez personne. Donc on imagine bien que le faire une seconde fois ou une troisième fois pour certains, ça les rend encore plus vulnérables à chaque fois. Donc ces personnes-là sont pour la plupart dans ces conditions-là. On n'a pas d'informations actuellement sur leurs conditions de vie nécessairement. On imagine qu'ils essaient d'être dans des familles d'accueil dans les zones de Kirumba ou Miriki, donc au nord et plutôt sur l'axe ouest au niveau de Kanyabayonga.
Vous ne prévoyez pas des mécanismes pour reprendre l'assistance là où ils se sont déplacés?
Pour l'instant, on essaie de comprendre si les gens vont revenir vers là où ils étaient et là où on devait les assister et les aider, ou s'ils vont élire quelque part domicile de manière plus prolongée dans les nouveaux endroits au sud du Bérou.
Les CICR a accès dans les zones occupées par les 1-23 dans la zone. Quelles sont vos interventions là-bas?
Bon, le CICR, vous savez, son mandat, c'est de protéger et d'assister les personnes qui sont victimes de conflits armés. Il y a pas de différence pour nous sur les zones d'intervention. Ce qu'on fait, c'est qu'on assiste les populations en fonction de leurs besoins. Donc, on assiste en eau. On assiste en vivre parfois quand c'est nécessaire et qu'il n'y a pas d'autres acteurs. Et puis surtout, on fait un travail de protection avec les porteurs d'armes, notamment de toutes les parties au conflit, pour prévenir un minimum les conséquences humanitaires sur la population civile. L'année dernière, par exemple, on a fait une distribution de nourriture à Nyanzale pour les déplacer de la zone. On avait également soutenu le centre de santé de Nyanzale, donc ça veut dire un accès aux soins gratuits pour la population. Et cette année, depuis le 1er juin, on soutient les centres de santé de Bambou et Kabizo.
Myriam Favier, je rappelle que vous êtes chef des sous-délégations du CICR au Nord Kivu. Merci.
Merci beaucoup.
Et par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.